Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Mes personnages n'ont pas de visage, volontairement. C'est à vous de choisir l'expression que vous souhaitez leur donner, un peu comme dans les foires d'autrefois, où vous mettiez vos têtes dans les trous prévus à cet effet pour vous faire prendre en photo avec un corps de rêve ou sur un cheval au galop. Les rayures sont celles de nos vies, celles qui nous habillent et revêtent notre environnement. Qui n'a pas été rayé d'un club, d'une vie amoureuse ou rayé par une blessure physique ou morale ? Qui n'a pas découvert sur sa première voiture neuve une rayure à faire bondir, ou encore une rayure sur son disque préféré, après l'avoir prêté à un ami. Qui n'a pas été rayé d'une vie professionnelle en découvrant le chômage. Qui n'a pas rayé un chèque, qui n'a jamais eu un pull rayé, qui n'a pas regardé Canal Plus sans décodeur, qui n'a jamais rayé une mention inutile, jamais vu un code-barre, ou encore traité quelqu'un de drôle de zèbre. Pour autant, quelles que soient les rayures profondes, superficielles, douloureuses, elles sont là. Parfois elles sauvent des vies, je pense aux marins, qu'il était plus facile de repérer en mer grâce aux rayures de leur marinière. On peut les voir sur un visage, que le temps façonne, autour et dans les yeux de quelqu'un. Elles soulignent un sourire ou hébergent des larmes. Alors il faut leur donner une couleur, les rendre belles, nous en revêtir, et les assumer en quelque sorte, parce qu'elles font partie de nos scènes de vie.
Alain Fossard, le texte que vous venez de lire, vous l'avez écrit pour votre site, et on peut le considérer comme une introduction assez rapide à votre art pictural.
Oui, ça résume bien ce que nous avons vu. Quelle est l'origine de tout ça, en fait?
Alors, c'est un peu comme... il faut chercher l'inspiration. Mais en fait, parfois, elle vous arrive de plein fouet. En gros, il y avait quelque chose chez moi qui était une forme de vision de la société. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai une activité où je fais beaucoup d'images, et des images avec une caméra... dans mes activités professionnelles, on les a dans la tête. Et comme ces images sont très souvent des images rapportées de faits de société, de gens, dans diverses... Je donne un exemple, quelqu'un qui fait un cheval, des scènes, ce qu'on appelle des scènes de vie, en gros. Vous les avez dans la tête, elles sont imprimées. Pour moi, j'ai pas eu trop de difficultés à pouvoir les ressortir de tête. C'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement besoin d'avoir un modèle devant moi ou d'avoir quelque chose qui soit une réplique de ce que j'imaginais. Non, ça sortait directement et donc j'avais plus qu'à la poser en peinture sur une toile, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est un puits sans fond, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scènes de vie diverses qui peut être lié aux gens qu'on rencontre, aux personnalités de chacun qu'on peut retrouver, à l'activité qu'on peut avoir également, si on est une danseuse, si on est quelqu'un qui laboure un champ, voilà. Et donc, on a un puits sans fond de matière première et qu'on peut modeler, qu'on peut repeindre à volonté, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et du coup... mon image, en fait, ma peinture, si je peux essayer de faire comprendre, c'est que j'aspire à ce que les gens puissent y découvrir une histoire. C'est-à-dire que chaque toile est imprégnée d'une histoire, de l'histoire de quelqu'un, au travers de son activité. On l'imagine dans un environnement. Et puis, il est présent. Alors, soit il joue le jeu sur la toile et il voit la caméra ou il voit l'appareil photo. Dans les peintures que je fais, c'est très souvent ça. Je pense, par exemple, aux photos qui étaient prises des ouvriers dans les usines dans les années d'avant-guerre, où on faisait des portraits de famille de tous les ouvriers, de tous les employés de l'usine qui étaient là, présents sur la photo. Et même chose pour les photos de classe qui existent encore au jour d'aujourd'hui. Et donc c'est un peu cette mémoire du temps, c'est tous ces personnages-là qui viennent se bousculer dans ma tête et que j'arrive à remettre et à reposer sur des toiles dans des environnements.
Alors avant qu'on aille plus loin, il y a quelque chose qui nous intrigue un petit peu, c'est que cette activité de création, vous l'avez démarrée en 2010 seulement. Pourquoi pas avant ?
C'est une bonne question. En fait, c'est... je pense très sincèrement que on a toujours un petit quelque chose de créatif en soi. Et soit on décide de le réveiller, soit on ne le réveille pas. Et on va passer sa vie comme ça, à le regretter ou pas le regretter. Soit on vit une frustration, soit on se dit « bah non, j'étais pas fait pour ça, ni capable de ». Et en fait, c'est un ami, on était en vacances, et je l'avais invité à venir me voir et à passer le séjour avec moi sur la côte. Et puis un jour, je me suis dit « tiens, il y a du soleil, il fait beau, je vais me mettre sur ma terrasse devant la caravane, et puis je vais peindre une petite toile, comme tout un chacun pourrait faire ». Et puis lui, il est venu voir, il s'est penché sur mon épaule et puis il m'a dit « Ah, ton truc là, c'est pas mal. Tu devrais creuser un peu. » Et puis, bon, en fait, il avait fait ce que certaines gens, quand vous rencontrez ces gens-là, justement, vous insufflent. C'est-à-dire ce courant ou cette envie de faire parce qu'on vous a complimenté ou parce qu'on vous a dit « c'est bien ». Voilà ce qu'on fait pour un enfant, et du coup on l'emmène vers la bonne voie parce que voilà, il a envie de faire ces choses là et ben du coup je me suis plus arrêté. Donc j'ai continué à peindre, et puis j'ai commencé à faire de cette petite toile des toiles plus grandes, puis encore plus grandes, puis ainsi de suite, jusqu'à avoir des toiles qui sont assez imposantes et qui représentent tout le travail que j'ai pu, enfin c'est même pas un travail, mais tout ce que j'ai pu faire depuis 2010. Été 2010.
Dans vos techniques, il y a bien sûr les rayures, mais il y a aussi l'absence de visage. Oui. Comment vous l'expliquez ?
Alors, j'avais repris dans le texte l'idée de la foire, autrefois, avec, vous savez, ces espèces de présentoirs où on avait un trou dans le visage de la personne et on pouvait le remplacer. Ça existe encore, hein, quand vous allez dans des parcs d'attractions ou des centres de loisirs, vous avez ce genre de présentoir. Et puis, vous mettez votre tête dedans, vous faites une photo. Et vous vous retrouvez en D'Artagnan. Voilà. Donc c'était l'idée de pouvoir, pour le spectateur ou pour celui qui regarde, se mettre à la place. Et se dire, bah, tiens, ça peut être moi. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'idée qu'être proche des gens, ça veut dire aussi que, du coup, on se trouve dans le tableau. On peut s'identifier au personnage du tableau. Et en même temps, on peut lui donner une expression. Et on peut choisir l'expression. Et en fait, cette expression, elle va naître de l'environnement que le tableau découvre, montre à la personne. C'est-à-dire, voilà, moi je prends un exemple tout bête que j'avais fait une toile, elle y est toujours hein, d'ailleurs, d'un grand-père vu de dos avec sa petite-fille qui part au loin. Et un jour, j'étais en exposition à Saint-Marcel-Bel-Accueil et il y a une dame qui s'est effondrée et qui a revu son mari partir au loin et avec cette idée de départ, quoi, en gros. Et voilà, elle a fait ce transfert naturellement parce qu'elle s'est sentie très proche de ce que j'avais voulu exprimer. Et donc, ça a créé une émotion très forte. C'est un peu ce que je recherche. Et du coup, cette émotion... Les gens, je veux qu'ils puissent la mettre dans le visage, et le visage n'offre pas d'émotion, du coup.
Alors, dans votre graphisme, il y a de l'élégance, il y a de l'humour. On a l'impression que vous vous attachez particulièrement aux expressions physiques, corporelles, et toujours avec une certaine tendresse, pour ne pas dire beaucoup de tendresse.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, parce que le corps exprime beaucoup de choses, je pense. Si on y fait bien attention et si on regarde bien, le corps exprime énormément de choses. Donc ça peut être des petits gestes, ça peut être des... Voilà, et il suffit d'être attentif à ça pour voir ce qu'une personne peut éprouver à un moment, à un instant T. Donc tout ça, c'est de l'émotion. Et ben, cette émotion, après, il faut l'utiliser. Et donc, effectivement, la mise en situation des personnages dans un décor avec une attitude particulière, très gestuelle, très plaquée, très marquée, donne une indication à celui qui va regarder la toile en lui disant « Tiens, il est en train de faire ça. Ah, mais ça, moi, je l'ai déjà fait. » Voilà. Ce sont des gestes qu'on va retrouver chez les gens. Et on s'identifie beaucoup plus au tableau comme ça.
Oui. Et on s'aperçoit effectivement qu'on n'a pas besoin des visages. L'attitude, enfin, le mouvement des bras, des jambes, l'attitude donne l'expression. C'est très étonnant. Ça.
Oui.
Il faut aussi avoir beaucoup étudié, regardé pour pouvoir donner cette émotion due à ce graphisme-là.
Oui, alors ça, moi je dirais, c'est un vrai cadeau que la nature nous fait, c'est que il y a une telle richesse chez les gens que du coup, il suffit de se baisser pour ramasser, en gros. C'est-à-dire que j'en reviens à l'émotion. À partir du moment où les gens vous donnent de l'émotion, c'est très facile de pouvoir la reproduire d'une certaine manière, de pouvoir la transformer en peinture. Il suffit de faire attention. Il suffit d'être observateur, de regarder, et puis d'aimer la nature humaine.
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que vous vous intéressez aux personnes, de toute évidence. C'est la première chose qui frappe, mais vous accordez une grande importance au décor. Il y a les fleurs, il y a les arbres, il y a les immeubles, il y a la nuit aussi, très belle souvent, la montagne, la mer.
Oui. Alors,
vous êtes un contemplatif ?
Oh, pas loin. J'apprécie beaucoup de choses au niveau des panoramiques qu'on nous propose, des panoramas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mes tableaux, en plus, j'imagine des arbres. J'ai des arbres lucioles, j'ai des arbres en esquimaux, j'ai des arbres avec des paraboles. J'ai même un arbre qui rouspète parce qu'il déroule des rouleaux de papier toilette parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se... soulager sur lui. Donc voilà. Donc effectivement, ma nature à moi, elle est un peu. Elle est un peu imaginaire dans le sens très enfantine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand je fais des interventions dans les écoles avec les enfants, ça marche très très fort. Parce que les enfants sont très réceptifs.
Ouais.
Et du coup, les choses qu'ils vont remarquer dans les décors, c'est effectivement ça. C'est ces arbres tout bizarres parce que, voilà, j'ai un arbre à vélo aussi, j'ai plein de choses comme ça. Ou des immeubles un peu tordus qui swingent, voilà. Et c'est vrai que eux, dans leur imaginaire, ils voient ces choses-là, donc ça leur parle un peu aussi à leur façon. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une école où les maîtresses avaient l'idée, parce qu'ils avaient un arbre dans la cour, et de faire en sorte que cet arbre ait des fruits un peu extraordinaires suite à l'exposition que j'avais organisée avec cette école. Donc, vous voyez, c'est un imaginaire un peu particulier.
Juste un petit moment de parenthèse. Vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous animez des ateliers, vous...
Alors, ce qui se passe, c'est que, à chaque fois qu'un village, une ville m'invite comme artiste, déjà il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je partage ma peinture, donc en tant qu'artiste peintre, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que si des gens vont sur mon site et qu'ils ont besoin, d'ailleurs je l'ai cité sur le site, qu'ils ont besoin d'une image, d'une peinture pour illustrer quelque chose, il n'y a aucun problème, il suffit qu'ils me le demandent. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, cette universalité, moi, elle est intéressante dans le sens où je veux que tout le monde en profite. Je veux pas qu'une seule personne qui m'achète une toile en profite pour lui tout seul. Donc j'ai envie, pour commencer, après je verrai plus tard bien sûr, mais pour commencer, parce que je suis tout neuf moi, dans ce milieu-là, c'est que les enfants, la famille, quand je vois que des enfants, quand je fais des interventions dans les écoles la semaine, et en sachant que j'ai une expo le week-end, c'est les enfants, quand ils ont vu ce que je faisais, qui incitent les parents et qui les bousculent pour leur demander de venir à l'exposition, parce qu'ils ont envie de la revoir, ils ont envie d'emmener papa, maman, mamie. Donc c'est pour toute la famille. Et ça, cette idée-là, moi, je le reçois. C'est-à-dire que quand, après le week-end, je reçois toute la famille, je suis content parce que je vois des gens avec des sourires, c'est sympa comme tout.
Au fil des arts, Couleur FM 97.1. Alain Fossard, vous allez nous dire la musique que nous venons d'entendre.
Oui, alors l'affaire Louis Trio. Mobilis Inmobile. En fait, c'est un morceau de l'affaire Louis Trio. J'aimais bien ce groupe-là. Et puis, c'est en hommage à Hubert Meunier qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui était un type assez extraordinaire. Voilà, et qui était talentueux. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas suffisamment parlé. Voilà, c'était un hommage que je voulais rendre, tout simplement.
Alors, je reviens aux enfants, parce que moi, je vous ai rencontré à George Sand, et je donne des cours aussi de peinture aux enfants, et donc on est descendu, et beaucoup ont fait aussi, ont copié vos œuvres. Et donc, vous dites que dans beaucoup de vos peintures, il y a des énigmes aussi, et que seuls les enfants peuvent voir.
Oui.
Un exemple, des personnages avec des rayures horizontales,
oui,
un seul
ça.
A une rayure verticale, et ils le voient.
Oui.
C'est la différence.
Oui, tout à fait.
Il y a ce regard aussi des enfants
oui.
sur votre peinture.
Oui, oui, oui. Oui, la démarche n'est pas tout à fait la même. C'est pour ça que je préserve ce public-là, parce que c'est un public très intéressant. D'abord parce qu'il est très riche en enseignement. Il m'apprend beaucoup. Et puis, en réactivité, en émotion, ils ont plein de choses à me dire à chaque fois. Et en plus, leurs compliments sont des compliments sincères. Et ça, c'est très appréciable. Et effectivement, dans les toiles, bon, à la fois, il y a un petit peu d'humour, comme vous l'avez dit, parce que ça, je crache pas sur l'humour. Mais en même temps, il y a quelques énigmes. Oui, effectivement, il y a des personnages qui sont un peu dissimulés dans les décors. Des attitudes aussi. J'ai une montagne, c'est une femme qui est couchée à l'horizontale. Donc, les adultes ne le voient pas au premier regard. Et les enfants trouvent très rapidement les énigmes. J'ai une toile qui on voit un personnage qui est seul devant la mer, très ondulé. Et en fait, dans la mer, il y a un dauphin, il y a un cachalot. Et en fait, les enfants le voient assez rapidement. Voilà. C'est un petit peu comme les espèces d'images en 3D où on fixe son attention pendant longtemps. Puis au bout d'un moment, on arrive à découvrir ce qui se trouve en arrière-plan dans l'image 3D. C'est un peu la même chose. Et donc, ils ont cette réactivité. Puis alors, c'est intéressant de voir leur réaction parce que forcément, pour eux, ça devient un jeu. Ça devient un amusement. Et ils se prennent à ce jeu-là et ils nous le rendent vraiment bien, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment un truc... remarquable de voir leur sourire, de voir ils se précipitent vers l'étoile pour essayer de trouver l'énigme suivante. Ils ont compris l'attitude du personnage et donc ça c'est un vrai régal, c'est un vrai plaisir.
Alors vous dites que les enfants vous apprennent. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Vous maîtrisez votre art apparemment, vous le maîtrisez très bien. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Là, vous avez excité notre curiosité.
C'est gentil de me faire plein de compliments, mais je pense que, en fait, je pense qu'on ne sait jamais tout totalement. On n'est jamais comment dirais-je, par rapport à un art qu'on pratique. Voilà, on n'est pas non plus. Le nec plus ultra, et en matière d'émotion, de ressenti, la façon dont ils vont s'exprimer aussi. Parce que des fois, j'ai un jeu qui consiste, par exemple, à donner un mot qui incarne le mieux la toile. Donc je leur demande de m'écrire sur un bout de papier, je leur fournis les stylos, bout de papier, etc. Et puis je leur dis, bah voilà, sous ces tableaux-là, vous allez mettre un mot qui représente pour vous, qui vous donne un peu le contenu de la toile, ce que vous pensez, voilà, ce que vous pouvez imaginer. Du coup, c'est très intéressant parce que c'est pas facile, mais j'essaye de donner un titre à mes toiles. Et c'est vrai que parfois, je me suis rendu compte que le titre que pouvaient m'apporter les enfants était plus fort que le mien.
Alors, vous avez commencé à parler de votre peinture. C'est un petit peu, si on regarde l'ensemble de votre production, là, sur 5-6 ans, c'est un peu le portrait de la vie quotidienne que vous nous proposez, avec des scènes qui sont souvent très banales, mais
oui.
Que vous magnifiez, si je puis dire, avec votre geste de peinture. Ce choix-là de montrer la vie quotidienne, c'est pas un choix anodin.
Non. Non. D'abord, c'est un... Comment vous dire ? On attribue, par exemple, on dit d'un film qui va marquer son époque, parce qu'il est le témoin d'une époque. On dit d'un livre la même chose. on dit d'une peinture aussi. Donc, ce qui est important, c'est de dire à un moment donné, bah, si je fais des scènes de vie, il faut que ça soit aussi l'empreinte d'une époque, l'empreinte de quelque chose. Il faut que ce soit la mémoire de quelque chose. Donc moi, si je fais un papy assis dans son jardin, sur un banc, avec ses deux enfants, voilà, et sa canne qui lui tient le menton, bah voilà, c'est une époque qui peut traverser aussi les âges, mais c'est une manière de marquer mon temps et de voir un peu des scènes campagnardes, de voir des agriculteurs en train de travailler avec leur tracteur, de voir un jeune et son père qui font de la randonnée, trois femmes ensemble qui visitent une ville et qui s'amusent. Voilà, on a le sentiment qu'elles s'amusent toutes les trois. Voilà. C'est des gens au quotidien, parce que la banalité du quotidien peut avoir une forme de richesse absolue. Et donc, tout dépend comment on la peint. C'est ça le truc. C'est-à-dire que le banal quotidien qu'on vit tous les jours peut être désuet. Et en revanche, quand on lui donne la couleur qu'on a envie de lui donner et un autre regard, pif, tout de suite, ça devient quelque chose d'absolu.
Et alors, si on le rattache au premier mot que vous avez prononcé, vous avez dit les images, elles affluent, j'ai pas besoin de chercher, elles sont là.
Ah oui.
On vous voit jamais, je ne sais pas, en train de photographier un paysage, des gens, de faire des portraits, jamais.
Non, alors ouais. C'est une projection de l'esprit. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je fais des peintures, par exemple là, quand je descends dans le Midi en été, j'ai un groupe de peintres et de peintres qui font partie d'une association et qui aiment bien aller peindre dans la nature. Alors je vais avec eux. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a notre chevalet tous. Et puis on est 5-6 en enfilade. Et puis on a un décor devant nous. Et en fait, c'est la forêt des pins, comme on peut l'imaginer, avec les odeurs du Midi, etc. Donc tout le monde, excepté moi, tout le monde reproduit l'univers qu'ils ont devant eux. Et puis moi, d'un coup, il me voit en train de faire un personnage qui joue au ballon avec quelqu'un d'autre qui fait du vélo, etc., et qui est en train de circuler sur un pont ou n'importe. Ils me disent, mais je comprends pas, là, tu... Voilà. Et donc, voilà, c'est pas parce que vous avez des peintres, effectivement, qui vont tout de suite reproduire, et on en voit souvent, dans la nature, qui vont reproduire une scène de nature. Et puis, vous avez des projections de l'esprit, des gens qui ont une image dans la tête et qui vont la reproduire sur une toile. C'est un peu mon cas.
Oui. Alors, justement, chaque tableau représente une histoire. Est-ce que vous n'avez pas envie de mettre une histoire après une histoire, c'est-à-dire une image après une image, et de faire un album, de faire de la BD?
Alors, on n'est pas loin de l'univers de la BD.
Ah, il y a quelque chose dans votre graphisme qui y fait penser, oui, immanquablement.
On n'est pas loin. Mais alors, je serais plus, si on parle BD, je serais plus, non pas au niveau de la planche BD, mais plutôt au niveau d'un dessin qui va exprimer quelque chose. Un peu comme les dessinateurs voilà, de magazines ou de revues qui produisent un dessin et qui traduisent une pensée à un instant T. Voilà. Je serais plus dans cette idée-là, mais effectivement.
Mais plus fort encore, parce qu'il n'y a pas les bulles.
Il n'y a pas les bulles, tout à fait. Il n'y a pas les bulles, il n'y a pas les visages. Le challenge est élevé. Oui, tout à fait.
Alors, vous avez évoqué les visages, les rayures, le décor, les gens. Parlez-nous de vos couleurs.
Oui. Ah oui, c'est bien de le noter. Les couleurs, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand on parle des rayures, très souvent, on les associe à du noir. C'est vrai, on dit, voilà, une rayure, c'est la couleur noire en priorité. Et en fin de compte, si elle traduit une émotion, si elle traduit quelque chose qu'on a sur le visage, qui peut être une rayure, une ride, ben une ride, c'est foncé, c'est noir. C'est pas de couleur très claire. C'est de la peine, ça. On peut imaginer que ça représente la peine de quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce que je dis dans mon texte d'ailleurs, c'est que ces rayures, il faut les assumer, une bonne fois pour toutes. Se dire, voilà, on a un vécu, on a un passé qu'on va retrouver chez les gens, et il faut non seulement les assumer, mais il faut s'en revêtir. C'est-à-dire qu'il faut les porter sur soi et les accepter. Une fois qu'on les a sur soi, on y met de la couleur, et on les voit plus belles parce que c'est ce qui nous forge, c'est ce qui fait ce qu'on est. Donc voilà, moi j'ai cette façon de voir les choses et de me dire, voilà, si on s'habille de nos propres rayures, de tout ce qu'on a vécu dans nos vies, et qu'on l'assume complètement, qui qu'on soit, eh bien, on y met de la couleur et on voit les choses différemment, je pense.
Donc, si je vous ai bien entendu, la couleur, c'est pour vous une manière d'exprimer que... Comment dire ? Un art de vivre, ou une façon plutôt, une conception de la vie.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai du mal à... Alors, souvent, je dis un truc à mes étudiants, je leur dis, quand vous faites un schéma, vous avez de la couleur. Ça existe, les crayons de couleur. Pourquoi vous n'utilisez pas les crayons de couleur ? Très généralement, ils utilisent un stylo à billes bleu ou noir, et puis point barre. Je leur dis, mais attendez, la couleur, c'est fait pour exprimer des choses. Ça signifie quelque chose, la couleur. On est dans un monde de couleurs. Pourquoi ne pas en profiter, enfin ? Je veux dire, le noir et blanc a son concept. Voilà, mais on a la couleur. Donc, pour moi, la couleur est très importante. Et elle est d'autant plus importante que, très souvent, j'aurais tendance à même la saturer. C'est-à-dire que je vais mélanger des produits pour pouvoir la saturer également sur les toiles.
Et vous ne vous imposez aucune limite par rapport à ces couleurs. On a vraiment l'impression d'avoir l'arc-en-ciel en vous lisant, entre guillemets.
Oui. Alors, c'est très paradoxal, parce que souvent on dit que les couleurs ne se marient pas forcément entre elles et qu'il faut une unité. Ben, finalement, quand on regarde l'étoile, on arrive à reproduire cette unité, même s'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. C'est très riche en couleurs.
Ouais, il y a toujours une harmonie.
Il y a toujours une harmonie.
Dans le tableau.
Oui. Oui, ça c'est frappant.
Très belle harmonie.
À l'école déjà, ma confiance en déroute succombait chaque fois que l'on faisait un foot. Je revois les capitaines, Alexandre et Philippe, c'était toujours les mêmes qui faisaient les équipes. Leurs doigts nous désignaient, presque cérémonieux, et chaque fois j'espérais pas être le canard boiteux. Mais c'était toujours moi, le dernier à l'appel. Je me rappelle même une fois entendre ces mots cruels. Nous n'étions plus que deux, les yeux sur nos chevilles, quand Philippe dédaigneux lança, ouais, on vous le laisse, on prend la fille. C'est pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot, celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris, juste qui ne fait pas envie et que l'on prend à contre-cœur. Plus tard, il y a eu le collège, j'avais des potes en or, sauf que le même manège se répétait encore. Plus de foot, plus d'équipe, mais bien une sélection, c'est juste que les arbitres s'appelaient Lise et Manon. Aussi, c'était pas aisé de me rendre à l'évidence que rien n'avait changé depuis ma petite enfance. Elles venaient toutes me voir, au début j'y croyais, je retrouvais l'espoir de ne plus être le boulet. Elles venaient toutes me voir, mais c'était pour savoir comment lui la trouvait, pour que je leur donne rancard. Pour chaque coup arrangé, si j'avais pris 10 balles, je serais un grand PDG d'agence matrimoniale. C'est pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot, celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris juste qui ne fait pas envie et que l'on prend à contre-cœur. Aujourd'hui j'ai compris que je n'étais pas tout seul à vivre comme un banni, et pour ceux qui le veulent, j'ai créé récemment l'amicale des rebuts, un cercle de transparents invisibles à l'œil nu. Entre nous c'est pas pareil, on se distingue, on se voit, on se donne des conseils, tous ensemble on y croit. On fait même des jeux où y a que des capitaines. Bon, pour l'instant, on n'est que deux, mais on veut faire une chaîne. Rejoignez-nous, les salsifis, les croutons de pain dur, les navets, les tous ceux qui ne font pas envie, qui n'inspirent aucun intérêt. C'est pas terrible comme sensation d'être un yaourt à l'abricot, celui qui reste seul dans le frigo, ni dégueulasse, ni vraiment bon, mais sans intérêt ni saveur, n'inspirant même pas le mépris juste qui ne fait pas envie, et que l'on prend, et que l'on prend, et que l'on prend à contre-cœur.
Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut, je pense, hein. Ouais. Ouais, ok, j'arrive.
Au fil des arts, toujours sur Cool FM 97.1, Alain Fossard, pourquoi ce choix de musique?
Alors, c'est un ami, c'est un bergalien, et en plus, il est auteur-compositeur. Et donc, moi, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son travail. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est méritant et qui fait des chansons très sympathiques. Donc, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son travail parce que c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans ce qu'il fait. Et donc, je voulais lui mettre un petit coup de lumière, un petit coup de projecteur comme ça.
Voilà. Il s'appelle comment ?
Alors, il se fait appeler Mex, c'est son nom d'artiste. Voilà.
Alors, on va continuer par un projet qui vous tient très à cœur. C'est un projet avec des autistes.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, quand on parle du travail qu'on fait avec les enfants, c'est donc cette perception qu'ils ont qui est un peu différente de la nôtre, monde d'adulte, parce que certainement qu'on a dû effacer des choses et que notre perception n'est pas la même. Voilà, on a peut-être perdu un peu ce regard d'enfant, parfois. Et donc, j'ai rencontré une personne très riche en enseignement, puisqu'elle m'a fait découvrir plein de choses. Elle s'appelle Valérie Lacroix, c'est une psychothérapeute qui s'occupe d'enfants qui sont malades et qui sont atteints d'autisme. Et donc, elle est venue vers moi, recommandée par un ami, voilà, qui est le directeur de l'ADAPT Lyon. Et donc, j'ai rencontré cette personne qui m'a proposé de travailler avec elle sur une collaboration pour pouvoir présenter ma peinture aux enfants autistes. Alors, pourquoi ? Moi, au départ, je disais, bon, bah, ok, elle va certainement réunir pas mal d'artistes et tout. Elle m'a dit, non, ce qui est intéressant dans votre peinture, c'est qu'il n'ait pas de visage. Je dis, ah bon, effectivement, c'est mon concept, mais je ne pensais pas que ça pouvait intéresser des enfants qui étaient atteints par cette maladie. Elle m'a dit, si, bien au contraire, parce que les gens se font une idée de l'autisme qui est un peu différente. Il y a plusieurs manières de travailler avec des autistes. Donc, elle a une méthode qui consiste à faire communiquer l'enfant par rapport à ce qu'il éprouve et à ce qu'il ressent. Mais elle m'a expliqué qu'en fait, le plus compliqué chez un autiste, c'est le visage de quelqu'un. Et en fait, elle m'a expliqué qu'un autiste ne vous regarde jamais au niveau du visage, ni les yeux, ni le visage. Parce que c'est trop difficile pour lui, parce qu'il a beaucoup trop d'informations d'un seul coup et qu'il n'arrive pas à les gérer. Et donc, ça peut provoquer des crises. Et je ne savais pas du tout ça. Je n'étais pas conscient de ça. Du coup, elle m'a fait découvrir quelque chose. Voilà. Et ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à travailler avec vous sur ce projet parce que, voilà, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, j'espère que c'est un projet qui va réussir parce qu'elle a beaucoup de mérite. Voilà, donc je l'encourage.
Et ça va prendre corps quand ?
Alors, en théorie, ça devrait démarrer dans les mois qui viennent. Voilà, ça se ferait sur Lyon. Et elle va reprendre contact avec moi parce qu'elle veut mettre ça en place de manière à pouvoir faire appel à des artistes également, autres que moi, bien sûr, mais pour les mêmes raisons. Donc moi, j'ai dit oui, volontiers, je me prête volontiers à cette expérience. Voilà.
Et vous avez déjà une petite idée du travail que vous allez faire avec eux ?
Alors, moi, on a évoqué ensemble l'idée d'exposition, dans un premier temps, et puis de dessin, de peinture avec les enfants, également. Un peu ce que je fais aussi avec les enfants voilà, qui n'ont pas de difficultés particulières, d'arriver à mettre une émotion sur une image, des choses comme ça. Puis elle va me guider, bien sûr, parce que c'est la professionnelle.
On revient sur votre travail.
Oui.
Quand on va sur votre site, on peut voir une vidéo.
Très bien.
où le peintre que vous êtes apparemment se fait metteur en scène de ses propres tableaux. Et du coup, on a le sourire parce qu'on découvre chez vous comme un goût pour le burlesque.
Oui.
Le gag.
Oui, c'est vrai.
Et on s'est dit que probablement vous aviez des affinités aussi avec un de nos plus grands réalisateurs, Jacques Tati.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des références. Effectivement, ce qui est rigolo dans la vidéo, c'est que je voulais à la fois présenter l'étoile et à la fois, avec mon maillot rayé, incarner un personnage un peu décalé, on va dire, qui s'amuse déjà sur une scène avec mes tableaux qui défilent. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dans le burlesque et dans un cinéma particulier, bah, parfois la bande son est muette déjà. Il faut traduire les expressions qu'on a par des expressions très prononcées, très caricaturales, de façon à pouvoir recréer l'émotion. Voilà, j'ai essayé de jouer un peu à ce jeu parce que je trouvais que ça c'était bien en adéquation avec certains de mes tableaux. Et puis c'est vrai que la vidéo pour moi c'est quelque chose qui est vecteur aussi dans ce que je fais, parce que si j'avais pas eu la vidéo à un moment donné, si j'avais pas eu toutes ces images dans la tête filmées, que j'ai filmées forcément, vous savez, quand il y a à peu près une quinzaine d'années en arrière, j'ai fait un film pour France 3 sur ça s'appelait la Saint-Barthélemy grenobloise, et donc ça parlait de gens qui avaient été dénoncés à Vizille et qui étaient partis en camp de concentration, des Français, et j'ai rencontré des personnages complètement incroyables. J'ai rencontré un monsieur à l'époque qui avait 70 ans, et quand il était dans son fauteuil, il m'a raconté sa vie de l'époque comme si c'était hier, et pourtant c'était passé, il avait 20 ans. Et je filmais ce personnage. Et pendant que je l'interviewais, je continuais de le filmer, et puis à la fin, quand il me raconte son histoire, que les Allemands l'avaient attrapé dans un potager, qu'il avait réussi à sauter une barrière, qu'il avait reçu une rafale de mitraillette, qu'il avait été emmené à l'hôpital, que si, que ça, bref, quelque chose de rocambolesque, je me disais waouh. J'avais les yeux tellement concentrés sur lui avec la caméra que je ne m'étais même pas rendu compte qu'effectivement la rafale de mitraillette lui avait coupé la jambe, et j'avais même pas vu que ce monsieur était unijambiste, qu'il manquait une jambe et qu'il avait un bras de coupé également. Je l'avais pas vu. Et donc c'est pour vous dire que la vidéo a cette importance, c'est pour moi de marquer le temps, de raconter une histoire par rapport à des gens qui ont un vécu, qui ont un passé. C'est aussi le moyen de préserver cette histoire, c'est aussi le moyen de préserver de la mémoire. Ça, pour moi, c'est indispensable au jour d'aujourd'hui. Vous avez les paysans de l'Amérique du Sud qui sont venus en France du côté de Saint-Jean-de-Bonnet parce qu'il y a des choses qu'ils ne savaient plus faire en agriculture. Et les agriculteurs de la région de Saint-Jean-de-Bonnet, du commissaire agricole, leur ont montré des vidéos de choses, comment il fallait préparer un tracteur, comment il fallait... parce qu'il y a des savoir-faire qu'ils avaient perdus. Et c'est grâce à cette collaboration, c'est grâce à des images qu'on a, des photos, des vidéos, des choses comme ça, qu'on peut préserver cette mémoire qui est d'une richesse absolue. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et au travers de cette mémoire, ben moi j'ai mon garde-manger, puisque je peux aller me servir dedans à volo, puisque je rencontre ces personnages, puisque je les vois de leur vivant, que je discute avec eux, qui me racontent leur histoire. Donc à la fois je m'enrichis du savoir de ces gens-là, que je respecte énormément, et puis ben à la fois eux m'enrichissent de leurs attitudes, de leur expression. Voilà.
Oui,
c'est un échange.
Parce que la réalisation de documentaires est une partie aussi de votre activité aussi.
Oui, oui, oui. Alors, dans, effectivement, l'image, hein, de toute façon, ça reste... vu que je tourne autour et que ça reste important pour moi, oui, ben, je réalise des documentaires, je réalise aussi des fictions, des clips vidéo. Voilà, Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est... autour de la réalisation, c'est d'y mettre sa propre patte personnelle. Et puis surtout, c'est de rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment un truc, pour moi, c'est le plus important. C'est de pouvoir dire à un moment donné, mais quand on réunit des gens qui ont du talent, quand on réunit des gens qui ont de l'imaginaire, qui ont un univers, et qu'on les rassemble, mais bon sang, mais tout le monde préfère une salade composée avec plein d'ingrédients dedans qu'une salade avec simplement des feuilles de salade. Et du coup, on l'apprécie beaucoup plus, et elle est bien plus riche, et on s'enrichit tous les uns les autres. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. C'est de s'enrichir au contact des autres. Ça, c'est vraiment un truc. Pour rien au monde, je regretterais tout ce que j'ai pu vivre autour de ça.
Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just come directly home right after school, and when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
Au fil des arts, Couleur FM 97.1, Alain Fossard, ce que nous venons d'entendre.
Oui, alors c'est un morceau d'un groupe rock canadien, en fait, qui existe depuis très longtemps, une quinzaine d'années, largement, et que j'aime beaucoup la tessiture de voix du chanteur, j'aime beaucoup cette voix chaude et très raillée, voilà, ça fait partie de mes préférés, donc j'ai suivi toute leur discographie. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans leur pochette de CD, ils ont, enfin, c'est de la peinture, et c'est très 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 joli graphiquement, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai une affection particulière pour ce groupe qui n'est pas forcément connu en France.
Alors ce groupe, il s'appelle, si on veut le connaître,
Crash Test Dummies.
Comment ça s'écrit là? Parce que si, c'est...
Ah oui.
Comment ça s'écrit?
Oui.
Alors, le crash, hein, mm-hmm. ouais, comme en anglais, crash. Un crash, ah. test. Mm-hmm. Et Dummies, c'est D-U-M-I-E-S.
Ok.
Alors, Alain Fossard, est-ce qu'on peut relier ce travail que vous faites lorsque vous rencontrez des gens, que vous les filmez, avec ce qui est par ailleurs votre pratique professionnelle qui vous amène à côtoyer des grands élèves, des jeunes étudiants, comme vous voudrez le dire?
Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ben, la peinture ou tout ce que je peux faire en toile, ça vient aussi de ça. Ça vient aussi de cette activité professionnelle, d'être au contact des gens que j'ai pu filmer, etc. Et donc, ce côté, l'idée qu'il faut aller vers l'humain. Ça, moi, c'est un de mes concepts. C'est celui que je préfère. Aller vers l'humain. Donc, ça veut dire, en fait, pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter, pouvoir se découvrir. Parce que quand on ne connaît pas l'autre... Eh bien on en a peur et on arrive à des situations de blocage, alors que quand on le découvre et puis qu'on le connaît, ben on s'aperçoit que finalement on est un peu tous pareils. Et l'idée que j'avais, c'est, j'ai un ami Frédéric Chattard qui est responsable du phare à Villefontaine. Le phare, c'est le foyer d'animation des retraités. Puis un jour, il y a une douzaine, voire 13 ans en arrière, je dis, écoute, moi les personnes âgées, j'aime bien. Je trouve que on les laisse un peu de côté, c'est un peu dommage, et qu'il y a moyen de faire des choses. Et ils ont de la disponibilité, donc ça, c'est intéressant. Et donc j'ai dit, bah tiens, et si on mettait nos jeunes en face de ces gens-là, et que moi je propose aux personnes âgées de jouer des rôles et d'incarner des personnages dans des fictions. Et puis la mayonnaise a pris assez rapidement, parce que lui était intéressé par le concept et le projet. Et du coup, on a mis les moyens techniques de mon activité professionnelle au service de cette opportunité. Et on a réussi à réunir entre 14 et 15 personnes âgées, d'une moyenne d'âge de 70-75 ans, qui se sont pris au jeu et qui sont devenus en quelques années mes plus fidèles comédiens. Et donc tous les ans, je renouvelle l'équipe technique avec de nouveaux jeunes qui sont en formation au BTS de Villefontaine, BTS audiovisuel. Et donc on les met en contact et ça se passe vraiment très bien, parce que c'est ça l'idée, c'est de se dire, bah tiens, pourquoi ne pas aller vers ces personnes âgées, pourquoi les laisser de côté, parce que finalement on peut faire des choses. Et c'est vraiment des personnages, c'est ça qui est intéressant. Et même pour les jeunes, de découvrir ça et de se dire, mais ouais, finalement, on se marre avec eux, on est bien, on s'éclate, voilà. Ça crée des scènes de vie qui sont absolument intéressantes et rigolotes. Finalement, ils ne font plus qu'un, c'est ça qui est intéressant. C'est quand vous les mélangez sur la photo de fin de tournage, vous voyez plus qu'un groupe, une famille, quoi, en fait. Voilà. Alors qu'il y a un écart de génération qui est très important, parce que les jeunes qu'on a, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 19 ans, et les personnes âgées, elles ont entre 70 et 75 ans, vous imaginez l'écart. Et pour autant, quand ils se retrouvent autour de ces fictions-là, ben, ça marche, la mayonnaise, elle prend, et c'est des vraies scènes de vie. C'est des scènes de vie avec des sourires, avec des gens qui s'amusent, qui rigolent, qui piquent des fous rires, qui travaillent aussi, qui ont du sérieux dans ce qu'ils font, et ça, c'est très inspirant, vraiment.
Donc vous arrivez à faire des fictions,
oui,
avec ces personnes âgées,
oui,
des fictions qui sont tournées par les élèves.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Voilà.
Et les fictions, qui est-ce qui les imagine, qui est-ce qui les invente, qui est-ce qui les construit, qui est-ce qui les transforme en scénario, en dialogue, etc. etc.
Ah ben moi je les écris en amont, donc j'écris toute la trame, je fais le scénario et puis je réalise la fiction après. Voilà, ça c'est mon truc. Donc voilà, l'idée, c'est que le plus important, c'est pas la réalisation en soi, bien sûr, mais c'est surtout de pouvoir fédérer autour d'un projet, de pouvoir rassembler autour d'un projet qui va unir deux générations complètement opposées au jour d'aujourd'hui. Voilà. Quand on est papy mamie et qu'on a des petits enfants de 9 ans, 10 ans à s'occuper, ça se passe bien en général, tout va bien. Quand on a 19, 20 ans et puis que les papy et mamie, bah, ça y est, il y a un grand écart qui s'est fait. Et là, on retrouve cette espèce d'union, de convivialité et puis de complicité. Et ça, c'est très riche d'enseignements, je trouve. Voilà.
Alors, tous ces films, où peut-on les voir ?
Alors, pour le moment, ils sont sur le site de la mairie de Villefontaine. Et puis, dans un proche futur, il y aura une chaîne YouTube qui sera mise en place. Voilà, avant cet été. Voilà, donc, effectivement. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des expériences qui sont faites en France. Mais de celles-là, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est simple. Et sur la durée, c'est-à-dire que ça fait 13 ans que ça dure. Et pourvu que ça dure encore longtemps. Voilà.
Alors, on a vu quelque part que vous vous proposiez de louer vos tableaux à partir d'un site qui s'appelle Archange.
Oui.
Alors, c'est quoi ça?
Alors, j'avais rencontré une personne qui s'appelait Virginie Pfanner, qui est maintenant élue à la région, au conseil municipal de Bourgoin-Jallieu. Et donc cette personne avait une idée, un concept, elle était venue me voir un jour en me disant voilà, moi j'ai envie de développer quelque chose qui puisse intéresser à la fois les artistes et à la fois le monde de l'entreprise et le monde des collectivités locales. Donc, et l'idée qu'elle en avait, c'était de dire, mais plutôt que de vendre la peinture, pourquoi ne pas la louer? Parce que du coup, dans la location, elle y voyait l'idée de varier, de pouvoir disposer d'un menu à la carte et de pouvoir proposer quelque chose de façon à ce que les gens puissent changer de toile quand ils en avaient envie, selon leur gré. Avec une modalité financière de location. Voilà. Infinitésimale. Mais qui incitait les gens à pouvoir découvrir cette culture, à l'amener dans l'entreprise, à l'amener dans les collectivités locales pour décorer des couloirs, décorer des salles de réunion, des choses comme ça. Je trouvais l'idée assez séduisante. J'ai dit oui, c'est un concept intéressant. Elle a été appelée à d'autres aventures pour le moment, mais elle m'a toujours dit qu'elle gardait ça en réserve et qu'elle pourrait, le cas échéant, renouveler cette aventure.
Alors, Alain Fossard, ce concept n'est pas nouveau, le fait de pouvoir louer des œuvres.
Oui. Alors, la petite différence que je trouvais originale, c'était que les entreprises, dans les concepts existants, vont chercher les toiles dans une médiathèque pour les louer. Et donc, elles n'ont pas nécessairement le temps de faire ça. Et elle proposait d'amener les œuvres dans les entreprises et d'amener les œuvres dans les collectivités. Il y a une grosse différence. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à s'inquiéter de faire la démarche. On l'a fait pour elles. Voilà. Ça change un peu les choses.
Est-ce qu'on peut évoquer une autre facette de votre talent? Sur votre page Facebook, vous êtes photographié et vous ressemblez apparemment à un zombie.
Alors, effectivement, c'est une bizarrerie. Mais alors, c'est rigolo ce que vous dites parce que, voilà, il y a aussi... Ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans la peinture, forcément, on rencontre des gens. Et puis, on a des repères. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Raph Péo, qui est un artiste bergelien également, qui donne des cours aux enfants, qui est un artiste reconnu, voilà. Et c'est un ami personnel. Mmh. Et donc, il a une activité également, il anime des choses, et puis il anime une espèce de fête sur Bourgoin-Jallieu, voilà, où on se déguise tous en zombies, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le concept, c'est pas tant le fait de se déguiser pour incarner un personnage particulier, de se transformer. C'est surtout parce qu'il a l'idée de ramener dans un même lieu des artistes d'univers différents. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qui sont dans la sculpture, on va retrouver des gens qui sont dans le maquillage, dans la peinture. Voilà. Et quand on réunit tout ça, ça donne quelque chose d'assez surprenant. Et même si la thématique est l'horreur, ça me fait penser à Horror Picture Show, des choses comme ça, même si cette thématique est là, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de fouiller, de rassembler et de réunir des talents. Ça me plaît.
bien, on peut en terminer là.
Oui, je pense.
Sur cette idée de, oui. de rassemblement, de partage, oui, de richesse oui, de, par de, le partage.
Oui.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.